Messieurs, dames, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour la grande édition du studio Kalangou. Tout de suite, les titres. Dans plusieurs localités du pays, des fortes pluies ont engendré d'énormes dégâts matériels, rallongeant ainsi la liste des sinistrés. Les échos de la situation dans un instant. Pour réduire les risques de contamination au paludisme en cette saison des pluies, la moustiquaire imprégnée d'insecticides est très utilisée. Dans cette édition, une spécialiste revient sur les problèmes dermatologiques liés à cette utilisation. La partie magazine de cette édition portera sur l'automédication chez les femmes enceintes au Niger. Rabia Mekano pour la présentation et Kadar Tchumbiano pour la technique. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, plusieurs localités de la région de Zinder ont enregistré de fortes précipitations selon notre correspondant. À Zinderville, selon les services de relevé pluviométrique, entre 115 et 120 mm ont été enregistrés, tandis que Damagaram Takaya a enregistré plus de 200 mm. Notre correspondant signale l'effondrement de plusieurs maisons et de murs. Dans un communiqué, l'administrateur délégué de la ville de Zinder appelle la population à plus de vigilance et annonce une réunion d'un comité de crise pour recenser les bâtiments qui pourraient accueillir les sinistrés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours en lien avec ces pluies à l'intérieur du pays, les récentes pluies torrentielles combinées à l'écoulement des eaux des Koris ont causé des dégâts importants dans le village de Tondikia et plusieurs localités voisines de la commune de Gaya. De nombreuses habitations se sont effondrées, des champs et des routes submergées. Quelques riverains témoignent au micro de Fadel Alou.
Toutes les surfaces du périmètre que les producteurs ont fourni l'effort de travail ont été envahies par les eaux. Je m'apprêtais moi-même à mettre de l'engrais dans ma rizière et maintenant elle est remplie d'eau. C'est ainsi pour les champs de sorgho et de mil. Il ne reste que les champs en amont sur les terrains sablonnés à exploiter. Toutes les terres de Tchassa à Kalejinde ont été inondées. Les routes sont endommagées. Et n'eût été les réparations faites sur la digue, nos villages allaient être déplacés. Nous sommes vraiment victimes des eaux du Dalol Mauri et du Dalol Foga. Le village de Tondika est situé juste au bord du fleuve et les activités de ses habitants tournent autour des cultures irriguées. Et voilà que les eaux du fleuve sont rentrées juste dans les concessions et endommagées plusieurs maisons. Actuellement, on dénombre une vingtaine de maisons tombées. Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Mais s'agissant des champs et rizières, n'en parlons pas. Tout a été inondé.
Allons dans la région d'Agadez où les fortes précipitations enregistrées entre le 31 août et le 1er septembre dans la commune urbaine d'Arlit ont causé plusieurs dégâts. Selon le service départemental de la protection civile, le bilan à la date du 3 septembre s'établit comme suit. 193 ménages sinistrés totalisant 648 personnes, 97 maisons effondrées et plusieurs murs écroulés. On note également plusieurs infrastructures publiques endommagées. La saison des pluies au Niger rime très souvent avec le développement du paludisme, d'où cet appel des autorités à la prévention avec l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à la longue durée d'action. Seulement, certaines personnes se plaignent des effets secondaires. Dr Halidou Sidi Beramatou, dermatologue à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey, explique comment bien utiliser ces moustiquaires. Elle est au micro de Habiba Ahmed.
Quand vous sortez votre moustiquaire du paquet, il faut l'étendre. On peut l'étendre sur les cordes à linge, ou bien on peut l'étendre sur une table ou bien sur des chaises pendant 24 heures. Et ça, c'est très important. Et cette aération se fait à l'ombre. Vous pouvez l'étaler dans une chambre que les gens ne, dans laquelle les gens ne viennent pas beaucoup. Ou bien vous pouvez aussi l'étaler à l'air libre dehors. Mais il faut que ce soit à l'ombre. Les conséquences, si la moustiquaire n'est pas bien utilisée, ça peut provoquer des allergies. Ça peut provoquer des démangeaisons. Ça peut provoquer des conjonctivites. Ça peut provoquer des rhinites. Il y a des gens aussi, ça peut leur provoquer des urticaires. Donc les urticaires, ce sont des grosses plaques qui grattent et qui disparaissent après 24 heures, parfois 12 jours. Donc il faut forcément étaler votre moustiquaire pour éviter ces désagréments.
Pour pour s'enquérir de l'effectivité de la décision du gouvernement relative à la réduction de 50% des coûts de prestations sanitaires dans les centres de santé publics, l'administrateur délégué de Gamou, Issaka Jibrilou, a visité le centre de santé intégré de Kazoé. Le responsable de la structure de santé a saisi l'occasion pour énumérer certains besoins, des propos recueillis par Ibrahim Monzo.
Nous souhaitons que les malades partent se faire consulter dans les centres de santé avant que la maladie ne s'aggrave. Souvent, les malades arrivent dans un état critique et nous pouvons que les évacuer vers les hôpitaux de référence. L'État a fait de son mieux. Il reste à la population de venir se faire soigner, surtout aux femmes, de se faire consulter dans les formations sanitaires. Il faut que la population accorde une importance aux consultations.
En aide aux populations vulnérables, victimes de la cherté de la vie, l'État du Niger procède à la vente de céréales à prix modéré sur l'ensemble du territoire national. Souvent sur place, des problèmes apparaissent lors de cette campagne. Notre reporter Zainabou Traoré s'est rendu sur un site de vente à Yantala, dans le premier arrondissement de Niamey. Quelques bénéficiaires s'expriment au micro de Zainabou Traoré.
Les céréales que l'État a minées pour la vente à prix modéré aux personnes vulnérables, vraiment, on n'est pas fiers parce que l'opération s'est faite de façon injuste. Les pauvres souffrent. Les gens commencent à venir ici depuis la prière du matin.
La manière par laquelle cette vente à prix modéré est en train d'être faite est inacceptable. Wallahi, les vieilles dames qui sont là souffrent. Cela fait plus de 4 jours qu'elles viennent et repartent sans gain de cause. La vente à prix modéré, là, c'est le nom seulement. Mais en réalité, on ne gagne rien. Il n'y a que quelques poignées de personnes qui arrivent à avoir quelque chose. Wallahi, les gens souffrent ici. Nos mères, nos sœurs souffrent vraiment.
Je vous assure que nous sommes là pour la vente à prix modéré des céréales. Nous venons du quartier Boubel. Nous avons gâché nos frais de taxi comme ça. D'autres ont eu, d'autres n'ont pas eu. Ils ont dit que les céréales sont finies.
Repartons à Agadez où l'association Alarm Fonds Sahara, dans un rapport publié, rapporte que plus de 20 000 personnes ont été expulsées d'Algérie au Niger de janvier au 24 août 2024. Beaucoup de personnes expulsées restent bloquées dans les différentes localités de la région d'Agadez, au nord du Niger, dans des conditions précaires, précise l'association. Chehou Azizou, membre de l'association Alarm Fonds Sahara, est joint au téléphone par Maman Ada.
Je confirme bien ce rapport et je veux juste préciser que les 20 000 personnes dont nous avons fait état sont répertoriées depuis le début de l'année 2024, c'est-à-dire que depuis le mois de janvier jusqu'à le mois d'août, et on a pu effectivement, à travers nos équipes qui sont sur le terrain, répertorier les 20 000, sinon plus, de migrants qui sont expulsés de l'Algérie. La plupart d'entre eux passent par le Niger. Et leur première localité, une fois arrivée sur le sol nigérien, c'est la localité de Samaka où nous avons une équipe sur place qui apporte une assistance à ces personnes-là. Quand ils arrivent, en tout cas au Niger, j'avoue que parmi eux, beaucoup sont traumatisés. Ils ont besoin d'accompagnement.
Quittons Agadez pour Zinder. Après l'interpellation la semaine dernière d'un individu de nationalité pakistanaise à Matamaï sur une moto-taxi par la brigade de la gendarmerie, le président des conducteurs de taxi-moto appelle à la collaboration et à un peu plus de vigilance. Mohamed Lawali Di Damato, président des conducteurs de taxi-moto, au micro de Abou Sarki Saleh.
La pratique a pris une autre tournure. Elle ne se limite pas au transport de la drogue. Aujourd'hui, on transporte même des individus suspects enturbanés à moto. Quand de tels actes se produisent, on pense directement aux conducteurs de taxi-moto. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas impliqués, mais quelqu'un d'autre qui a d'autres objectifs peut acheter une moto et s'y prendre comme un conducteur de taxi-moto. Nous sommes ici à la frontière. Tous les actes en lien avec le crime et la vente de drogue se passent à ce niveau. Les forces de l'ordre doivent donc redoubler de vigilance sur cette frontière. Le plus souvent, ces pratiques se font en moto. Certains conducteurs de taxi-moto sont des étrangers qui franchissent la frontière avec une personne, quel que soit le prix. Mon appel est que c'est un travail qui nous concerne tous. Nous devrons collaborer avec les autorités, c'est-à-dire les informer de tout comportement suspect.
La situation sécuritaire au Sahel et au Niger est particulièrement difficile. À Maradi, l'on assiste à des enlèvements fréquents dans certains villages frontaliers avec le Nigeria. Dr Diko Abdourahmane, maître de conférence à l'université de Zender, explique la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Il est au micro de Mustapha Mamansani, notre correspondant à Zender.
Depuis un certain temps, nous avons remarqué que, à l'instar des autres organisations criminelles qui évoluent dans l'espace sahélien, au Niger aussi, nous relevons justement le développement ou l'émergence d'une nouvelle élite djihadiste qui fait de les enlèvements ou de la prise d'otages comme étant une activité assez lucrative. Pour financer les activités criminelles, ces organisations-là ont besoin de l'argent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons remarqué que dans la région de Difa, tout comme dans la région de Maradi, de nouvelles situations assez particulières relatives justement à ces prises d'otages. Nous savons très bien que la région de Maradi fait frontière avec le Nigeria et le kidnapping au Nigeria fait pomper des millions et des millions de naira. Mais aujourd'hui aussi au Niger, on a l'impression que justement cette activité-là est à la limite plus ou moins accentuée autour de cette prise d'otages-là. Compte tenu de la porosité des frontières, ces organisations criminelles naviguent de manière régulière entre les deux pays. Aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est la propagation de cette activité-là dans les autres régions du Niger, comme par exemple la région de Zender, particulièrement au niveau du département de Gouré.
Le football nigérien est en deuil avec le décès d'un de ses illustres dirigeants. Ancien président de l'Olympique Football Club, Boubé Abdelkadri, est décédé hier lundi 2 septembre à Tunis. De son vivant, le président Boubé, comme on l'appelle affectueusement, a œuvré pour le rayonnement du football nigérien, comme en témoigne Abdourafa, président de l'association des supporters du MENA du Niger. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Je connais très bien Boubé pour avoir été supporter ou même être supporter de l'Olympique. Vous savez, il était le président de l'Olympique pendant des années. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans le domaine du sport, notamment le football. Nous, on l'a connu dans le football et il a toujours œuvré pour que le football nigérien avance. Parce qu'il y avait une division entre eux, ils ont créé la GSC. Mais il a continué à supporter l'Olympique. Jusqu'à l'année passée, il a toujours mis la main à la poche pour supporter l'Olympique. Parce que c'est un club qu'il aime. Il a beaucoup contribué pour que le football avance, notamment sur le plan financier. Au-delà de l'Olympique, même le MENA. Moi, je me rappelle très bien en 2000, mon premier reportage à l'Oxedost, c'est lui qui m'a financé mon premier reportage. Je suis allé à Accra, j'ai accompagné l'Olympique, qui partait livrer deux matchs amicaux. J'y étais. Ça a été pris en charge par Boubé Abdelkadri. J'ai compris que c'est quelqu'un, quand même, qui a de l'amour pour le football. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait une grande perte, que la pilule soit légère.
Au Niger, l'automédication est une habitude chez certaines femmes enceintes, bien que cette pratique ait des conséquences sur la santé de la maman et celle du fœtus. Zainabou Traoré s'est intéressée à ce sujet, suivez son reportage réalisé dans un CSI de Niamey.
Nombreux sont ceux qui consomment des médicaments sans l'avis d'un médecin. Certains, au moindre mal, courent chez le tablier du quartier pour acheter des médicaments, tandis que d'autres se contentent de la pharmacopée traditionnelle. Cette pratique s'observe aussi chez des femmes enceintes, comme en témoigne celle-ci que nous avons rencontrée dans une structure sanitaire de la place. Elles mettent en avant le manque de moyens.
Dès que j'ai le paludisme, je me dirige directement à la pharmacie. J'ai l'habitude de prendre le paracétamol qui n'est pas de la pharmacie. Même hier nuit, j'ai pris le socomol qui n'est pas de la pharmacie.
Mais ce n'est pas le cas de toutes. Madame Hadiza, en consultation prénatale dans le même centre de santé, a compris l'enjeu de l'automédication. Elle dit ne prendre aucun risque pour sa santé et celle de son bébé à naître.
Personnellement, moi, quand je tombe enceinte, je n'utilise jamais les médicaments de la rue. Si je sens un malaise, je demande conseil auprès des agents de santé. Je ne prends pas les médicaments de la rue parce que je ne sais pas les conséquences que ces genres de médicaments peuvent engendrer pour moi et le fœtus qui est dans mon ventre.
L'automédication de la femme enceinte, selon la sage-femme, pourrait impacter le développement du fœtus ou engendrer des maladies aux conséquences graves. Madame Laouli, sage-femme au centre de santé intégré du quartier Rikazma, explique.
Il y a des produits, par exemple, si je prends le paracétamol, c'est l'usage courant. Les gens, dès qu'ils ont des maux de tête, paracétamol, alors que c'est hépatotoxique. Et elle, la femme enceinte, de surcroît même, elle a un fœtus qui est en train de grandir en elle. Il y a des produits qui sont tératogènes, si on peut le dire. Par exemple, au début, au premier trimestre, c'est le moment où le fœtus se forme. Il y a des produits, quand tu prends, ça bloque certains processus de la formation de ces organes-là.
Afin de préserver la santé de la femme enceinte, les spécialistes recommandent une visite médicale avant toute prise médicamenteuse.
C'est tout pour cette édition. Merci, au revoir.